السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ سور الإسلام، chers frères et sœurs de cette masjid Ahsanul Masajid, la meilleure des mosquées, Ikhwani Akhawati Fillah, je vous adresse nos sincères remerciements, ainsi en premier lieu à son président pour cette invitation. C'est un grand honneur de pouvoir être avec vous aujourd'hui dans ce deuxième dimanche du mois de Ramadan. L'objectif de ce rassemblement, ce n'est pas une grande intervention, c'est juste un rappel entre nous. Et la personne qui parle a plus besoin de rappel que celui qui écoute. La personne qui vient écouter, il a déjà fait son mujahada, son sacrifice, il a quitté sa maison, il est venu, il a consacré du temps pour Allah. La personne qui intervient sera jugée sur chaque parole qu'il aura prononcée. Est-ce qu'il aura lui-même mis ses paroles en pratique? Parce que la connaissance religieuse, tout comme le Coran, la maîtrise du Coran, c'est soit un allié pour nous, hujjatun lana, ou alors ça témoignera contre nous le jour de Qiyama. Et qu'Allah nous protège min ilmin la yanfa', et qu'Allah nous protège également d'un ilm qui ne produit pas d'action. Ikhwani fillah, nous devons verrouiller, j'allais dire renouveler, je cherchais le terme, on doit verrouiller notre intention dans ce genre d'assemblée. Être sûr que je suis là pour un maqsad, pour un objectif précis, faire en sorte que le ikhlas, que la sincérité soit la qualité essentielle qui m'a permis bi'idhnillah de venir à cet endroit. Être mukhlis, c'est être accepté par Allah Azza wa Jal. Quand je jeûne, je dis Allahumma inni asumu ghadan laka. Le fait de jeûner, on va dire l'attestation ou la formulation de l'intention de jeûne est précédée par le mot Allah, Allahumma, oh Allah. C'est-à-dire que le jeûne c'est pour Allah, et ce qu'on fait c'est mukhlisan lillah, tout comme n'importe quelle action qu'on accomplit durant le mois de Ramadan, mais durant notre vie d'une façon générale. Donc de ce majlis, notre objectif c'est essayer d'apprendre quelque chose. Et certainement, ce qu'on va essayer d'expliquer, ce sont des notions que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendues avec, mashallah, plein de savants, plein de ulama. Mais le but c'est de faire un rappel, parce que le rappel est profitable pour le croyant. Et sachant qu'on est dans une période exceptionnelle, pourquoi est-ce qu'on fait des programmes durant le mois de Ramadan? C'est pas uniquement parce qu'on ne mange pas le midi. C'est pas parce qu'on ne mange pas le midi, donc on a du temps, donc autant faire un programme. Non, c'est parce que durant le mois de Ramadan, les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts, les cœurs sont réceptifs. Shaitan qui n'est plus nuisible, Iblis, n'est plus nuisible durant ce mois béni. Et également le nafs, inna nafs ala ammaratum, bil khair ou bissou. Bissou, le nafs, l'ego, qui en temps normal nous ordonne, nous incite à aller vers le mal. Ce nafs-là aussi ne peut plus agir sur nous. Pourquoi le nafs ne peut plus agir? Parce que le nafs est sous contrôle, il est maîtrisé. Le nafs, il se renforce lorsque je le suis, lorsque j'obéis, lorsque je fais tout ce qu'il demande. Il devient fort, il devient puissant, il augmente en influence sur nous. Mais lorsqu'on ne l'écoute plus, on ne mange pas, on ne boit pas, on se restreint aux limites qu'Allah nous a fixées, et on contrôle notre regard, on contrôle ce qu'on écoute, on contrôle notre langue. C'est-à-dire qu'il y a une istislam, il y a une soumission à Allah Azza wa Jal, et le nafs n'aime pas la soumission. Le nafs, l'ego, n'accepte pas la soumission à quiconque à part à lui-même. Pour ça, le Coran, Allah Azza wa Jal cite un verset, Afara'aita manittaba'a hawahu. Ou alors, non, l'autre verset, Afara'aita manittakhada. Afara'aita manittakhada ilahahu hawa. Il y a des gens qui prennent le hawa, le nafs, comme le divinité, le ilah. Comme nous, on dit la ilaha illallah. Na'udhu billah, il y a d'autres personnes qui considèrent le nafs comme le hawa, comme le ilah. De quelle façon? Le Seigneur, c'est celui que tu obéis dans toutes circonstances. Tu te soumets à lui. Mais malheureusement, il y a des personnes, qu'Allah nous protège, il y a des personnes qui se soumettent à leur nafs. Le nafs leur ordonne de manger, ils mangent. Leur nafs leur demande de regarder telle chose, de parler avec telle personne, d'essayer d'avoir un lien avec une personne, et ainsi de suite. Ils vont le suivre. C'est que ce nafs est devenu comme un ilah pour eux. Et ce mois de Ramadan, c'est une ni'ma, parce que nous sommes guéris normalement de ces maladies spirituelles, et nous sommes protégés contre les deux grandes sources d'influence de mal, qui sont Iblis, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qui, durant le mois béni, est emprisonné, selon certaines versions, il ne peut plus nous influencer en mal. Et le deuxième ennemi, c'est ce qu'on vient de citer, Al-Nafs Ammaratum Bissou, qui, du coup, ne peut plus, ou alors, a beaucoup plus de mal à nous induire en erreur. Ikhwani akhawati fillah, nous sommes aujourd'hui le 9e Ramadan, si je ne me trompe pas. J'ai toujours un problème avec les dates, moi, mais je crois qu'on est bien le 9e du mois de Ramadan, et on peut dire que nous sommes en train de vivre les meilleurs jours de l'année 1438. De cette année 1438, il n'y a pas meilleur moment que les 9 jours que nous venons de cumuler. Parce qu'en 1438, à part ceux qui ont été à Arafat, qui ont été au Hajj, mashallah, qui ont connu des moments exceptionnels, mais si on parle du commun des mortels comme nous, vivre Ayyam Ramadan, c'est le plus beau cadeau qu'Allah accorde à un mu'min. Pourquoi ? Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois où Allah te ramène vers lui. Le mois de Ramadan, c'est un mois où Allah, Azza wa Jal, d'une certaine façon, va te chercher chez toi, va te chercher de tes péchés, va nous chercher de nos dalala, de nos errements, pour nous ramener vers Baytillah, vers sa maison, et nous permettre de nous abstenir de manger, de boire, de faire sabr, d'être patient, de faire preuve vraiment de soumission à lui par l'éloignement de la nourriture et de la boisson, mais également par des ribadats très longs, très difficiles, la salat al-tarawih, même si vous avez des imams flamboyants, mais rester debout 1h, 1h15, 1h20, sacrifice. Allah donne à chaque personne la possibilité, la guider de le faire. Même des personnes qui, et Allah est le seul juge, hein. On n'est jamais dans un esprit de jugement. Allah est le seul juge, Allah c'est ce qu'il y a dans le cœur, même si parfois il y a des personnes qui ne sont pas très... qui ne fréquentent pas régulièrement la mosquée durant tout le mois, durant les 11 autres mois de l'année, mais on retrouve ses frères à la mosquée. On est très content de les retrouver. On les accueille comme des invités. Et là, certains savants, on va sortir du sujet, mais ça aussi on aime bien. Certains savants rappellent que quand on accueille un frère qui est un petit peu éloigné et qui revient, alhamdoulilah, durant le mois béni, faut pas le défier du regard. Il faut pas le regarder avec un regard hautain. Faut pas lui donner l'impression qu'on l'observe. Un peu comme les gens des autres villes quand ils viennent à Saint-Denis, hein. Comment donc Saint-Denis des autres? Vous savez, c'est comme ça. Et à tel point qu'on est devenu comme ça aussi. Quand il y a quelqu'un qui vient d'une autre ville, on le dévisage la tête aux pieds. Ça, garçon, qui ça, ça, quelle famille? Et la personne se sent un peu opprimée, dit-il, de mon nom, Villegarde, en, d'accord? Mais c'est comme ça. Il faut, au contraire, bilax, quand quelqu'un, mashallah, il revient, on l'accueille. Sois le bienvenu, ça c'est ta maison. Allah accepte. Allah nous donne la possibilité d'avancer durant ce mois, lui faire ressentir que tu es de ta famille ici. Ça c'est ta famille spirituelle. Et nous sommes en train de faire un effort mutuel pour Allah. Ni toi ni moi on est sauvés. Ce n'est pas parce que moi je viens à la masjid tout le temps, mon barbe fait 15 cm, que je suis plus sauvé que toi. Abadan wallah. Allah alimun bidat as-sudur. Allah c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Devant Allah nous sommes égaux. Personne ne peut dire que lui il est en avance, lui il est en retard, aucunement. Le plus important c'est que les cœurs soient entièrement soumis à Allah Azza wa Jal. Et vous savez, personne n'accédera au paradis par ses actions. Ça m'a dit, personne n'accédera au Jannah par ses actions, c'est uniquement par la rahmat d'Allah, par la clémence d'Allah. Et le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam dit que Shahrun Mubarak, c'est un mois béni, yakhshakum Allahu fihi bi rahmatih. Allah vous couvre de sa clémence. Il n'y a pas un moment de l'année où il y a autant de rahmat d'Allah qui descend sur nous. Et s'il existait un appareil ou un système d'infrarouge ou autre pour, subhanallah, pour évaluer la quantité de rahma qui descend, un rahmatographe ou ce que vous voulez, ben, ce serait saturé. Parce que ce qu'Allah nous accorde durant ce mois, c'est exceptionnel. Ikhwan fillah, j'ai presque envie de vous dire, tendez les mains et prenez ce rahma, mais ça fait un peu des sectes bizarres. Prenez cette rahma, mais quand on dit prendre rahma, c'est pas les attraper et mettre chez soi. C'est lever les mains et demander. C'est-à-dire la rahma descend, tu lèves un petit peu les mains, tu l'obtiens directement. Tellement Allah Azza wa Jal est généreux. Et Allah est karim toute l'année, oui ou non? Allah accepte les doigts toute l'année, oui ou non? Allah accepte le pardon toute l'année, sans le moindre des spécificités qui sont citées pour le mois de Ramadan, alors qu'Allah accepte déjà les doigts toute l'année. Alors qu'Allah accepte déjà notre tawba toute l'année. Alors qu'Allah envoie déjà sa clémence sur les mu'mines toute l'année. Mais durant ce mois, c'est encore plus fort, encore plus intense. Et le prophète alayhi salatu wassalam donne un conseil en or. Tous les conseils du prophète sallallahu alayhi wassalam sont profitables. Il nous dit fa'addu fihi anfusikum khayra. Durant ce mois, montrez le meilleur de vous-même. Faites le maximum d'efforts. Faites tout ce que vous pouvez pour Allah. Fa'arullaha. Ça vient du verbe montrer. Et vous connaissez tous un péché majeur qui a la même racine de fa'arullaha. Riya. C'est quoi la riya? L'ostentation. L'ostentation, le Prophète a qualifié comme étant le shirkun asra, le petit shirk. Fais une action pour montrer aux gens ta piété, ton investissement, ton courage, ta bravoure, et ainsi de suite. Péage de temps, tout ça. Péage de temps est garanti du jahannam, parce qu'Allah nous protège de l'ostentation, qu'Allah purifie nos cœurs. Mais devant Allah, on doit faire preuve d'ostentation. Fa'arullaha, montrez Allah. Vous posez la question, vous croyez qu'Allah ne voit pas déjà? Oui, Allah voit. Oui, Allah connaît ma sincérité. Oui, Allah connaît mon esprit de sacrifice. Il y a des gens qui, lorsque le mois de Ramadan arrive, on voit le visage qui change. On voit que les personnes ont, ils ont un objectif. C'est comme un coureur. C'est comme un athlète. Il est sur la piste, il s'entraîne. Et là, il sait qu'il faudra qu'il donne le meilleur de lui-même. Quand, un exemple, hein, et puis on peut prendre mille et un exemple. Quand une personne va faire les Jeux Olympiques ou quelle que soit l'activité pour laquelle il s'est préparé, là il est, il va démarrer là. Est-ce que là il va consulter ses SMS? Est-ce qu'il va consulter combien de personnes a aimé mon statut sur WhatsApp? Est-ce que j'ai eu des notifications? Combien de personnes a pris de photos sur week-end Instagram m'a envoyé? Combien de kilogrammes, même parfois tellement on en envoie? Personne ne pense à autre chose là. Il n'y a plus de rafla, il n'y a plus d'insouciance. Il y a un objectif. Les sourcils sont froncés. On voit le regard, il y a une lueur, il y a une lumière, il y a un objectif. Ça c'est le nour du Ramadan. Ça c'est la lumière du Ramadan. Il faut que je trouve cette lumière en moi. Il faut que je retrouve cette motivation. Au 9e jour, il doit y avoir une flamme en moi, quelque chose qui brûle. Et cette flamme ne doit pas s'éteindre. Cette flamme doit au contraire croître et augmenter. Les joies du Ramadan avancent, encore plus de motivation. Salatou Tarawih, ne jamais baisser les bras. Lecture du Coran, ne jamais ralentir la cadence. Raddul Basar, contrôle du regard, rester ferme. Au contraire, le problème c'est qu'on n'a pas commencé le sujet maintenant. Comment il fait? Moi, vous m'offrez au iftar ici? Vous savez, pour l'accomplissement des bonnes actions, plus on avance, plus il est dur de rester ferme. Vous savez, l'istiqam, hein? Il y a deux catégories de istiqam, hein, qui découlent des deux catégories de patience. On appelle as-sabr ala ta'a, être persévérant dans les bonnes actions. Tu fais ton tarawih jusqu'à la fin. Il ne bouge pas là. Tahajjud, tu t'es dit combien de rakat? 8 rakat, khalas. Tu fais 8 rakat, quelles que soient les circonstances. Fatigué, pas fatigué, malade, pas malade. Je me suis couché à 23h, j'avais plein mes chèques à boire chez LGM avec camarades. Quel que soit. LGM, c'est André? Non, non, vous avez le même fitna que chez nous. Ici c'est Tarawih, 10 rakat Tarawih avec 3000 chèques, Allah Moustan. Même si je me suis couché à 23h, 23h30, je suis fatigué. Parce qu'en plus c'est une halal, donc. Je suis fatigué, je suis épuisé, mais j'ai fait niyat, 8 rakat, on ne négocie pas. Et plus on avance dans les bonnes actions, plus il y a un risque de se lasser un petit peu, d'être parfois fatigué ou de perdre de l'importance. Vous voyez, premier jour à Tarawih, les safs arrivaient jusqu'à Oussamana. 7e ciel. Les safs, mashallah, dans toutes les masajid, ça dépasse largement la Jamaat Kana, les gens ils font namaz dehors. 8e Tarawih, on est un peu plus entre nous. Allah musta'an, il y a moins de gens, il y a moins de motivation. Premier, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alif lam mim. Tout le monde est hang hang, alif lam mim. Bien concentré là, dans la niaque spirituelle là. Quand commence Bara'atu min Allahi wa Rasulihi, enfin en général, hein, tous les murs sont peuplés d'habitants. Des gens qui ont une sincérité, le but c'est de tenir le mur de la masjid. Faut pas que ça tombe. On est là. Le poteau là nous tient bien droite. Nous est là, un tridmat de dins. Allah musta'an. C'est-à-dire que quand on avance dans les bonnes œuvres, automatiquement à un moment donné, il y a une certaine lassitude. On commence à baisser de motivation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se ressaisir. Comment se ressaisir? Doua. Demande à Allah istiqama et tawfiq de continuer de faire des bonnes actions. Et al-ilm nafi'. La connaissance religieuse qui est profitable. Cette connaissance qui nous donne tarib, qui nous motive à accomplir de bonnes actions. Avec le ilm, il y a amal. Sans ilm, il y a adat. Sans juger, hein. Et Allah est le seul juge. Quand il n'y a pas de connaissance, on suit les gens, on suit un mouvement. Adat, taqalid, c'est culturel. Parfois, on voit des caméramans qui viennent le ramadan. Ah oui, le ramadan, grand événement culturel pratiqué par nos parents, nos gros-parents, nos grands-parents. Gros-parents aussi, peut-être aussi. Par nos grands-parents, ainsi de suite. Culturel, a'oudhu billah. La'allakum tattaqoun. Quelle culture? Quelle tradition? Ça, c'est alaqa baynak wa bayna Allah. Relation qu'Allah te donne la possibilité de construire. Allah te donne la possibilité de revenir vers lui. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le ilm, la connaissance et al-basira, la clairvoyance, les actions sont vécues comme une tradition et on les fait soit parce que tout le monde le fait, il passe pas, il voit pas monter à soi masjid, ou alors c'est de la culture, on a l'habitude, viens masjid à Ramzan, ben nous viens. sans qu'il y ait de foi ou de conviction ou qu'il y ait de ligne de conduite ou qu'il y ait un objectif. Ce mu'min qui, on avait parlé de sa lumière dans ses yeux-là, quand il démarre Ramadan, il a un objectif. Et on avait un majlis avec des jeunes. Et certains de ces jeunes sont présents là. Allah les récompense pour avoir fait la distance entre Sané et cet André. Même si c'est pas trop un grand mujahada, Sané et cet André, c'est 15 minutes. Mais déplacer, vous savez, on quitte sa maison pour aller apprendre le ilm, on est dans talabul ilm. Talabul ilm, c'est pas uniquement aller madrasa, aller loin, aller faire 5 ans, 6 ans. Oui, ça c'est le summum et l'idéal. Et ceux qui l'ont fait méritent respect, alhamdulillah. Mais quitter sa maison, Saint-Denis, pour aller à un endroit, pour faire la salah bien sûr, et pour apprendre, il y a un programme sur Qadaf la ilmu'minu tafsir, je vais apprendre quelque chose qui va m'enrichir spirituellement, c'est talabul ilm. Et on a toutes les récompenses du talabul ilm qu'Allah accepte. Donc, pour revenir à l'ilm, s'il y a la connaissance derrière l'action, on garde la motivation et on reste ferme. Par contre, pour les péchés, et ça c'est une bonne nouvelle, pour les péchés, plus on avance, c'est-à-dire plus, j'ai oublié de dire, la deuxième catégorie de patience, c'est sabr anil ma'asiyah, être patient face aux tentations de Shaitan, face au péché. Chose qui est beaucoup plus simple durant ce mois, you know. Il est très facile. Vous pouvez demander à n'importe quelle personne, n'importe quel sniper qui entendant mal est capable de scruter une jolie fille à 40 mètres, les bons c'est 80 mètres. Mais la moyenne c'est 33 mètres 50. 33 mètres 50, d'accord? Après il y a différentes catégories d'identification, enfin, khair inshallah. Demandez aux pros. Demandez aux professionnels, est-ce que durant le mois de Ramadan, ça va? La dit, il n'est pas possible. Durant le mois de Ramadan, les gars, les zen, les yeux aussi, les lourds. Alhamdulillah, il n'y a pas ça. Et c'est une réalité, Shaitan n'est pas là. Et là, tu te rends compte que Shaitan joue avec toi. Vous voyez comme ces petits jeux débiles, hein, hand spinner. Shaitan, il te prend comme ça, il te fait tourner. Il te fait tourner. Dis non, regarde, tantine là, c'est des stress. Fais tourner. Wallah, Moustan. Mais durant ce mois béni, subhanallah, c'est comme si que on n'a même pas de tamar. On n'a même pas envie. On n'a même pas envie de regarder la musique. Là, tu bougas là. Comment t'appelles encore, Ah, mais qui est pas son nom, alhamdulillah. Un rappeur qui vient ou un chanteur, ainsi de suite. Khairan, inshallah. Même si en temps normal, j'ai l'habitude d'écouter mon rap et tout. Durant le mois de Ramadan, khalas, ma yahtaj. Les oreilles ne demandent pas, le cœur ne demande pas. On se dit que t'es, ma viens, bouzrouk. Non, tranquille. Vas-y doucement. Tu es pas encore un bouzrouk, mais tu es en voie de bouzrouki. Tu es sur la bonne voie. Et là, tu te rends compte que, dans le fond, là, tu n'es pas mauvais. On n'est pas mauvais, nous, dans le fond. Mais c'est Shaitan qui a pris une grande place dans notre vie. Et c'est le nafs, on l'a trop laissé d'espace. C'est quand même un magnifique caprice. Il veut manger un biscuit, il veut manger un chocolat, il veut ça. Tout de suite, il dit, Béta, ouvre ça. Oui, Béti, allez, papa achète, dada achète. C'est les grands-pères les plus dangereux de l'éducation. Nana, il est là, nana, il donne. Papa, il veut pas. Hein, tchouk tchap, hein, il donne un ou ça. Dis pas, hein. Mais l'enfant, il avance comme ça, il sait qu'en un claquement de doigts, il obtient ce qu'il veut. Il voudra tout. Il obtiendra tout et il arrivera à un niveau où il ne sait pas c'est quoi le non. Et donc, il avance sans contrôle sur lui-même et sans muraqaba, sans vérifier, sans faire attention aux limites qu'il y a autour de lui. C'est une catastrophe de l'éducation. Le naf, c'est pareil. Autant tu lui donnes, autant il se renforce. Donc, on a laissé trop de champs libres au nafs. Et il y a des fois, on se dit, mais comment rattraper tout ça? Comment rattraper tout ça? Il y a un jeune qui nous avait dit hier, on a fait un tour de table. C'est quoi les gros problèmes spirituels durant toute l'année? Et c'est quoi les objectifs durant le mois de Ramadan? Il y en a qui dit que je me rends compte que si je fais un bilan d'une journée, qu'est-ce que je donne comme temps pour Allah? Mais si je m'arrête, et déjà le fait d'y penser, c'est dalala ala l'iman. C'est une preuve qu'il y a iman dedans. C'est une preuve que le cœur ne sombre pas dans la rafla. C'est quoi la rafla? C'est notre maladie à nous. La rafla, c'est le contraire du dhikr. La rafla, c'est l'insouciance. Tu ne penses pas à Allah Azza wa Jalla du tout. Et si tu pries, Wallahu musta'an, tu pries, Alladhina hum fi salatihim sahun, et Allah nous protège, yura'un. Mais le premier degré de péché, c'est sahun. Yani, on oublie la salat, soit on donne aucune importance. Rafla. Et donc ce jeune disait que quand on analyse une journée, une semaine, un mois, se rend compte que le seul temps que je donne à Allah, et vous croyez qu'Allah a besoin de notre temps? Vous croyez qu'Allah a besoin de nous? Dans un hadith, le prophète alayhi salat a dit que lillahi malaïka, Allah des anges qu'il a créé depuis bad'ul khalq, depuis la création des cieux et de la terre. Et ces anges sont en sujoud devant le trône d'Allah, ils font le tasbih d'Allah, et ils ne se lèveront qu'au jour de qiyamah. Et quand ils se relèvent, ils disent Subhanak ma abidnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, subhanallah, toute louange et pureté te reviennent. On ne t'a pas adoré comme tu le méritais. Allah des anges, la ya'soun Allah ma amarahum. Vous croyez qu'Allah a besoin des personnes qui sont sales comme nous, avec les cœurs remplis de mauvaises choses? Allah n'a pas besoin de notre temps. Allah n'a pas besoin de notre mujahada. Mais Allah aime voir ces personnes qui se trompent, ces personnes qui font des erreurs et qui reviennent vers lui. Le Ramadan, ikhwani fillah, c'est le mois de l'espoir. Et quand ce jeune me disait, ça m'a beaucoup touché, qu'elle me dit que si je regarde dans une journée, combien de temps je donne pour Allah, on se rend compte que ben, moi aussi je regarde dans ma journée, combien de temps je donne pour Allah. Chacun est capable de faire un bilan sur son ahwal, sur sa situation. Et bien heureux, celui qui en permanence se fika pour son iman, celui qui en permanence se dit, mais où suis-je maintenant? Si Malik al-Maud vient et reprend mon âme maintenant, je vais où? Qui me dit que je suis vraiment avec les pieux, avec ceux qui sont aimés par Allah? On a parfois l'illusion qu'on entretient, qu'on est droit, qu'on est, mashallah, on avance parce que j'ai un nom, parce que j'ai un titre, parce que j'ai une apparence physique. On a l'impression qu'on est les meilleurs. Mais si on regarde bien là, qu'est-ce qu'il y a de le cœur? Est-ce que ce sont des choses pures? Est-ce qu'il y a l'amour d'Allah de le cœur? Effectivement, quand on analyse une journée, c'est là qu'on voit combien et comment on aime Allah. Si mon lien avec Allah dans une journée, ça se limite à 25 minutes, notre situation est grave. Pourquoi 25 minutes? Qui a trouvé c'est quoi 25 minutes? 5 salats de 5 minutes. Et dans ces 5 salats, il n'y a pas d'entrée, il n'y a que le plat principal. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, il n'y a rien. Il n'y a pas de sunnah muakkada, il n'y a pas rien. Sauf vitar parfois, en fait. Si ma relation avec Allah se limite à 2 faras fajr, 4 zuhar, 4 asar, 3 maghrib, 4 isha, même si le pilier est construit, mais construit en quoi? Vous construisez des piliers. Il n'y a pas de pilier dans ma zid là. Masha'Allah, c'est même grand monde ça. Ajib. Khayr, Inch'Allah. Quand il y a des piliers qui sont construits en béton, en marbre, mais il y a des piliers qui sont construits en polystyrène, Allah Moustahal, quel est le niveau de votre pilier? Vous êtes fier de votre pilier, mais quel pilier vous avez? Le moindre souffle, ça peut le faire tomber, qu'Allah nous protège. Le moindre fitna, la personne oublie la salat parce qu'il est en voyage, parce qu'il y a des gens qui regardent, Ali, je ne veux pas passer pour un terroriste, parce que je vais prier et tout. Ce pilier-là, il s'effondre en un instant, par un regard des gens. On a besoin, ikhwani fillah, de nous rendre compte qu'on a du chemin à parcourir. Et quand on se rend compte que c'est vrai, dans une journée, je donne 25 minutes à Allah, pas plus. Peut-être, je lis mon sourire ainsi le matin. Combien de temps il prend? 7 minutes. Peut-être, je lis tabarakalladhi avant de dormir. Ça prend 5 minutes. Ben, ça se résume à 60 minutes maximum pour Allah. Dua nous fait quand même. Fait dua, tac, tac, tchou, tchou. Il n'y a pas de doigt, il n'y a pas de relation avec Allah, il n'y a pas de tadallul al-khudur, il n'y a pas de soumission à Allah, il n'y a pas les larmes qui coulent à Allah, tawbah ya Allah, pardon pour ce que j'ai pu faire, pour ce que je n'ai pas pu faire. Si je n'ai pas ces qualités intérieures, c'est que je suis loin de la religion. Quel que soit mon degré spirituel, mon degré de mon ancienneté dans la religion, quel que soit mon titre, je peux être hafiz al-Qur'an, je peux être un artiste sur le musalla, faire un tarawih d'une façon magnifique sans faire de faute, mais le cœur peut être totalement vide. Comme on va voir dans Alladina hum fi salatihim khashi'un, il y a des personnes qui peuvent rester 20 rak'at debout immobiles. Ils ne bougent pas, ils ne clignent pas les yeux. Tiens, les yeux quand même clignent. Ils ne bougent pas une seconde. Mais le cœur est ra'ib tamaman. Le cœur est totalement absent. Ça ne s'appelle pas le khushu'. On peut avoir plein d'actions apparentes, mais dedans c'est complètement vide. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crainte d'Allah. Et ikhwani fillah, pendant les 13 premières années à Makkatul Mukarrama, le prophète alayhi salatu wa salam a travaillé le iman de sahaba. Quand est-ce que la salat a été révélée, a été légiférée? Lors du voyage nocturne, c'est-à-dire pendant ces 10 premières années environ, il n'y avait pas de ibadah direct. Quoi, sahaba, tu n'as pas mal, Allah, tawbah. Leur relation avec Allah était telle que ça a été construit sur sabr, sur la patience et sur l'amour et la recherche de son contentement. Et quand ils ont eu la salah, ben, il n'y avait pas besoin de faire un dar sur alladhina hum fi salatihim khashi'un et sur à la fin alladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Il n'y avait pas besoin, ils ont accueilli la salah comme un cadeau, comme le lien qu'ils attendaient pour être connectés avec Allah, et ils l'ont fait de la meilleure des façons. On expliquait hier avec nos jeunes que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade et qu'il avait délégué Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu pour officier la salah, Aïcha radiallahu anha ne voulait pas que son papa soit le imam. Pourquoi? Qui peut me dire? Hein? Notre ami Pizzaiolo. 3 ans de mariage? 2 ans? Masha'Allah. Mubarak. Pourquoi? Aïcha radiallahu anha ne voulait pas que son père soit le imam parce que Kana baka fi salati, Il pleurait tellement, il ne pouvait pas faire cela. Il pleurait tellement dans la salat que les gens n'auraient rien compris, ne comprendraient pas qu'est-ce qu'il est en train de lire. Ça, c'est le niveau mustawa des sahabas. On va voir peut-être en conclusion un hadith sahaba quand le prophète lui a demandé en privé « Comment est ton iman ?» Il explique « Ya Rasulallah, mon iman a atteint tel degré. » Et là, il va dévoiler, pas en public, mais au prophète sallam, il va dévoiler c'est quoi son niveau de iman bil ghaib. Et c'est tout simplement incroyable. Et là, le prophète me dit, là, tu es dans le vrai. Reste ferme et fais en sorte de mourir comme ça. Et là, on se rend compte que, Allahu Akbar, on se demande si Kalimana, il vaut quelque chose dans le cœur. Oui, ça vaut. Il y a la ilaha illallah Muhammad dans le cœur, mais il faut le travailler. Il faut obtenir les qualités spirituelles. Et lorsque, justement, on analyse le peu d'efforts qu'on fait durant une journée, on se dit, mais comment est-ce que je vais retourner vers là? Il y a trop de choses à faire. Si je regarde le nombre de péchés que j'ai fait depuis l'année, il me dit que c'est pas possible de revenir comme ça. C'est un travail gigantesque. Est-ce qu'il faut que je pars ma Kaaba absolument tout de suite, faire tawbah devant la Kaaba, et ainsi de suite. Mes chers frères, Allah de sa clémence nous a donné un mois. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ce daif, il vient à vous et il vous lave de vos péchés. Il vous donne des sifat imani, des qualités de cœur, des qualités de foi et la possibilité de amal bijawarih, des actions extérieures qui vous propulsent au plus haut niveau et qui vous lave de vos péchés. Comme le prophète alayhi salat wa salam nous dit que durant ce mois, tuftahu fi abwabul jinan, wa tughlaqu fi abwabul jahim, wa tughallu fi shayatin. Ça, on a vu tout à l'heure. Les portes du jannah sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatin sont emprisonné, yurashikumullahu fihi birrahma, Allah vous couvre de sa clémence, yaghfiru fihi al-khataya, Allah nous lave de nos péchés. Ça c'est ni'ma min Allah. Uniquement pour ça, nous devons rêver de vivre Ramadan, d'être présent, parce qu'Allah nous lave de nos péchés durant ce mois. Wa yastajibu du'a, et Allah exauce nos demandes, et les malaïka sont là lorsqu'on se réveille pour le suhoor le matin dès les tiers de la nuit. Les anges sont là, ils font doua pour les mutasahhirin. Tout ça, on n'a pas demandé ça. On n'a pas besoin de demander, ya Allah, quand les anges viennent sur terre pour faire doua, pour tes makhloukat, pour tes ibad, tes serviteurs, ya Allah, que les anges viennent et font doua pour nous. T'as même pas besoin de demander. Par exemple, dit, wal malaikatu tusalli ala al mutasahhirin wa tastaghfiru lahum. Les anges viennent, descendent et ils font doua pour les personnes qui sont réveillées pour le suhoor et demander istighfar. Tout ça sans demander. Tout ça, c'est manifestation de la clémence d'Allah durant ce mois. Qu'Allah donne la possibilité de répondre présent et d'embrasser dans le sens avec nos deux bras, de prendre cette rahma et de la prendre, de la garder, d'augmenter notre capital taqwa pour devenir de meilleures personnes. Des personnes qui, si l'ange de la mort devait venir maintenant, ils seraient, inshallah, agréés par Allah. Ikhwani fillah, Allah Azza wa Jalla nous a révélé, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On a maintes et maintes fois entendu ce verset depuis le début du mois de Ramadan. L'objectif du jeûne qui a été prescrit sur les gens qui étaient venus avant nous, c'est d'obtenir la piété. Et donc, en entendant ce verset, on a compris que on a un effort à faire. Notre Rabb nous a révélé, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui qui est présent durant ce mois, qui le jeûne. Donc, Allah nous demande, on obéit. Mais sachez qu'Allah Azza wa Jal, ce même Rabb, ce même Seigneur, dans d'autres passages du Coran, parce qu'on doit avoir une vision générale du Coran, on doit avoir une approche globale de la religion, pas uniquement l'approche du mois de Ramadan. Le din, c'est le din les 12 mois de l'année, toute la vie. Et de cette façon, on essaie d'être attentif à tout ce qu'Allah nous demande et faire attention à tout ce qu'Allah a interdit. Notre même Seigneur nous a dit « Wattaqu yawman turja'oun fihi ilallah » Craignez ce jour, sens du verset, ce jour où vous serez ramené vers Allah Azza wa Jal. Et quand on est ramené vers Allah Azza wa Jal, c'est pour répondre de notre passage sur la terre, pour qu'Allah examine. Allah sait déjà qui est de le droit chemin, qui n'est pas de le droit chemin. Pour qu'Allah nous fasse remettre nos livrets de compte et qu'Allah nous fasse lire nous-mêmes notre safha, on va dire notre vie de bonnes actions et notre vie de péché, afin que nous soyons conscient que nous avons réussi ou alors nous n'avons pas réussi, qu'Allah nous protège. Et notre Rabb attend de nous donc un comportement. Quand Allah nous rappelle, craignez le jour où vous serez ramené vers lui, quel est le message? Oui, développer iman bil yawm al-akhir, penser à ce jour, mais préparer ce jour. Le message, c'est préparer le jour où vous serez ramené vers lui. C'est pas uniquement de dire qu'un jour on retourne vers Allah, n'oubliez pas l'au-delà, c'est comme ça, il y aura telle description. On peut être un spécialiste en hadith sur le akhirah. Vous expliquez tout ce qui peut décrire l'au-delà. Mais si avec ça tu ne le prépares pas, quel intérêt? Ça reste ilmin la yanfa'. Ça reste une connaissance qui n'est pas profitable. Ce que nous devons rechercher à travers ce verset, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى, c'est craindre ce jour soit ramené vers Allah, oui. Mais l'homme intelligent, c'est celui qui prend conscience qu'il y a un retour. Et donc je dois préparer ce retour. C'est comme si que vous recevez un mail, d'accord? Bon, votre voyage, vous avez prévu d'aller au Hajj, d'accord? Donc le voyage, ce sera telle date. Vous savez que c'est dans 2 mois. Le but, c'est pas juste que ton passeport soit prêt et tout. Le but, c'est que tu te prépares. Le but, c'est pas d'être prêt le jour J. C'est que tu te prépares. On va dire, c'est un exemple un peu en décalage. Mais quand on sait qu'on retourne auprès d'Allah, azzawajal, on doit préparer ce retour. Comment préparer ce retour auprès d'Allah? En se soumettant à ses ordres, bien sûr, comme on l'a dit, en respectant, en s'éloignant des interdits, en développant les qualités qu'Allah attend de chaque mu'min, de chaque croyant. Et il y a différents versets du Coran dans lesquels Allah azzawajal rappelle les qualités que le musulman doit développer pour être agréé, pour être accepté par lui. Il y en a dans la sourate Al-Mu'minun, Al-Mu'minun. Il y en a dans la sourate Al-Anfal. Il y en a dans d'autres sourates qu'on a notées, pas mal de sourates. Mais au vu du timing, on va se limiter à Qadaf Al-Mu'minun. Il y a 2 versets peut-être, 3 versets de Qadaf Al-Mu'minun. Et au-delà des versets du Coran, le prophète alayhi salat wa salam a également donner des indications. Il a expliqué comment est-ce qu'un serviteur est agréé par Allah. Cela, c'est par le biais des hadiths. Et parmi les hadiths qu'on pourrait citer, c'est lorsque le prophète alayhi salat wa sallam nous rappelle que sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jal le jour où il n'y aura d'ombre si ce n'est l'ombre du trône d'Allah. C'est-à-dire que celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, il est parmi les muflihin, parmi ceux qui ont réussi, ceux qui ont été agréés par Allah. Et là, le prophète va citer 7 catégories de personnes. Dans le hadith, il y a à peu près 7, dans le verset de Qatif al-Mu'minun, un peu au début et un peu au milieu, il y a 7 qualités qui sont citées. Dans d'autres versets, on va trouver, à l'Anfal, je crois, il y a 3 qualités, et ainsi de suite. Le mu'min intelligent, c'est celui qui va brasser tous ces versets dans lesquels Allah décrit qu'est-ce qu'il attend de moi et essayer de le mettre en pratique. Le musulman, malheureusement, qui va se limiter à la pratique traditionnelle, c'est celui qui, à l'approche du mois de Ramadan, il ouvre le placard, il prend le Coran et il lit. Il fait 5 katam, 6 katam, 7 katam. Récompense, sans le moindre doute. Alif, récompense. Lam, récompense. Mim, récompense, sans le moindre doute. Mais ce sont des hasanats que tu vas cumuler pour toi. Tu vas remplir ton mizan et hasanat, inshallah, ces bonnes actions. Mais dans ta relation avec Allah, est-ce que tu as eu une hidayah? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que ça va améliorer la qualité de tes salats? Est-ce que par cette lecture ou par les a'mal qu'on accomplit au quotidien, quand je lève mes mains, je demande doua, est-ce que j'ai ce iman yaqin? Et quand je prie, est-ce que j'ai cette dévotion? Ça veut dire que on fait beaucoup d'efforts, mashallah, durant ce mois, dans les a'mal zahira, dans les actions extérieures. Mais ikhwan fillah, si on ne fait pas un effort intérieur sur notre cœur, si on ne fait pas un effort vers le ilm, vers la connaissance religieuse, qui doit être notre guide, qui doit nous montrer la voie à suivre, si on ne fait pas un effort dans notre relation avec le Coran, il est normal qu'après le mois de Ramadan, il n'y ait pas de istiqama. Ce n'est pas un discours défaitiste, mais c'est un peu réaliste. Malheureusement, on analyse le nombre de saf 3 jours après le Eid, Allah musta'an, dans toutes les masajid. Ça veut dire que le mu'min, durant le mois de Ramadan, il fait un effort conséquent et appréciable. Mais l'effort n'est pas complet. L'effort doit être accompagné par un effort sur son iman, sur soi-même. Et pas uniquement l'effort fait avec les jawarih, avec les membres. Et parmi les meilleurs efforts qu'on peut faire pour se rapprocher d'Allah, pour comprendre les réalités de iman, c'est créer un lien avec le Coran. Créer une relation profonde avec le Coran, de tadabbur afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ce mu'min qui depuis, mashallah, 35 ans fait la salah, alhamdulillah, ni'ma min Allah, ni'ma min Allah, mais qui malheureusement ne s'est jamais posé la question, quelle est la différence entre iyyaka na'budu et iyyaka nasta'in? Quelle est la différence entre le fait de dire Malik yawmiddin et ihdina as-sirata al-mustaqim? Quel est le sens profond? Pourquoi est-ce que quand je dis ihdina as-sirata al-mustaqim, je dois normalement trembler? Parce que c'est une demande sublime. C'est la demande qui me sauvera, qui me permettra de mourir avec iman. Chose que tout le monde souhaite, oui ou non? Quand quelqu'un est mort dans un Ramadan, dans le mois de Ramadan, dans une période, mashallah, on est tous contents, les enfants, même s'ils sont tristes, ils sont fiers à qu'Allah ait pitié pour Amwat al-Muslimin, tous ceux qui nous ont quittés cette année, l'année dernière, les années précédentes, qu'Allah Rabbul Izzah illumine leur tombe et leur accorde une fenêtre du Jannah qui est ouverte sur Allah, amin. Quand une personne meurt, la première chose qu'on se dit, c'est que la personne est morte avec iman. Alhamdulillah, c'est déjà ni'ma. Même s'il était à l'hôpital, même s'il y a eu des situations difficiles, il est mort avec iman, il est mort dans le droit chemin. Ben, c'est notre souhait, oui ou non, c'est notre souhait de mourir dans le salat al-mustaqim. Ben, quand on doit réaliser, là j'ai pris un exemple d'un verset, quand je demande ihdina as-sirata al-mustaqim, ça c'est la demande de ta vie, ça. C'est bien une demande qui doit en priorité être accepté, exaucé, c'est ihdina as-sirata al-mustaqim. Si maintenant je suis pas capable ou je n'ai pas fait l'effort, pas que je suis pas capable, je n'y ai même pas pensé. J'ai même pas pensé à aller un petit peu dans mes lectures. Ça veut dire quoi? Allahu samad. Ça veut dire quoi? Innahu kana tawwaba. Ça veut dire quoi les versets que je répète, que je lis tout le temps? Si on ne creuse pas, on n'avance pas. On fait le strict minimum, le pilier est là. Mais il n'y a pas ce qui fait la beauté de notre din. Alors que le mu'min qui prend la résolution, j'ai envie de comprendre mon din. Et pour comprendre le din, n'est pas obligé d'aller 5 ans, 6 ans dans un Darul Uloum apprendre, dans une jamia apprendre. Non. Il suffit, bien, ça c'est le summum bien sûr, mais si tous les jours je donne un peu de mon temps à lire ou à étudier auprès d'un alim, à écouter un dars régulier de tafsir, de hadith ou de sirah nabawiyya, de la sirah, je m'enrichis par rapport avec mon ilm, et j'ai iman, j'ai une conviction sur les textes, et j'ai yaqin dans ma salat, de mes du'as, et je crée une relation avec Allah. Si régulièrement j'apprends à connaître qui est Allah, les asma, les sifat d'Allah Azza wa Jal, notre du'a, ce sera autre chose. Le du'a qu'on fait, ce sera un autre niveau, notre sujoud, ce sera vraiment le moment qu'on attend le plus de la journée. Donc, ikhwan fillah, faisons l'intention de créer un lien avec la parole d'Allah, le Coran. En étudiant, d'abord on peut lire un peu la traduction, mais attention, la traduction n'est pas suffisante. Qu'on ne devienne pas autodidacte, il y en a plein. On se rapproche d'un alim, on essaie de trouver une solution, trouver avec nos alim référencés en qui on a confiance pour essayer d'apprendre le din et d'apprendre les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de parole plus profitable pour nous que celle de le prophète alayhi salatu wassalam. Car lorsque le prophète nous explique qu'il y a 7 catégories de personnes qui seront selon du trône d'Allah, c'est quoi ça? C'est une narration? C'est un texte descriptif? C'est irshad wa tawjih. Le prophète nous montre la voie. Oh mu'min, le sens profond, c'est, il y a ceux qui s'arrêtent au texte, c'est dommage. Il y a ceux qui vont de le sens, de l'objectif du texte. Oh mu'min, voilà les gens les plus aimés par Allah, les plus honorés le jour de Qiyam. Voilà les actions à accomplir. Trouve ta place. Fais ta place selon le nombre du trône d'Allah. Développe une de ces 7 qualités ou plus, mashallah, pour que Allah te choisisse et t'appelle parmi les gens qui sont ressuscités pour te déplacer, pour aller sous l'ombre de son trône. Et quel izzah, quel honneur que devant le ard al-mahshar, la terre de résurrection, Allah nous choisit pour être sous l'ombre de son trône. Quel izzah. Dans ce dunya, on n'a pas besoin de rechercher l'honneur. Pas besoin de rechercher l'honneur que, ah, ça c'est quelqu'un d'important. Viens, assise devant, viens. Ah, là on est content, là, il m'a donné considération. C'est à quoi tout ça? Ça sert à quoi? L'honneur de ce dunya, ça c'est la pire des choses. Recevoir les honneurs des gens, c'est vraiment, c'est comme si qu'on envoie une projectile contre notre ikhlas. Et c'est très grave. Mais recevoir cet honneur, jour de Qiyama, ça c'est autorisé. Tout comme fa'arullah, le riya, l'ostentation devant Allah, c'est autorisé. Tout comme le jour de Qiyama, celui qui reçoit son livret de compte dans la main droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce livret, il va dire, fa'yaqulu, ha, umuqra'u kitabia. Venez, regardez, venez lire, voyez ce qu'Allah m'a accordé. Voyez comment Allah m'a aimé, m'a accepté. Là, on en est fier, ikhwan et fillah. La fierté, c'est la fierté de ce jour. Le izzah, c'est le izzah de ce jour. La richesse, c'est la richesse de ce jour. Le qaboul, l'acceptation, c'est pas l'acceptation des gens. Que tout le monde dit, lui, c'est un mashallah, lui, il a réussi. Lui, il est bien intégré, lui, c'est quelqu'un. Alhamdulillah, ça c'est notre dost, ça c'est vraiment notre habib, on l'aime, tout le monde l'aime. Le but c'est que le jour de Qiyama, Allah t'aime, Allah est content de toi et Allah t'honore, qu'Allah nous accorde cet honneur et cela transite obligatoirement par l'étude de ce que le prophète nous a enseigné dans ce hadith de cette catégorie et dans le verset qu'Allah nous dit qad aflaha al-mu'minun, et vous pouvez brasser n'importe quel passage, qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants. Quelle qualité je dois avoir pour être un mu'min qualifié par Allah comme étant mu'min? qui a vraiment eu iman, et quelles qualités je dois développer pour avoir l'honneur de qad aflaha, pour être bien heureux. Et bien heureux, c'est dans ce dunya et surtout dans le akhira. Combien de personnes sont en apparence bien heureux de ce monde et qui seront malheureux le jour de Qiyamah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah te parle de falah, c'est le même falah que le muadhin dit, hayya ala al-falah. Venez vers le succès. Parce que dans l'obéissance aux ordres d'Allah, il y a le succès. Quand Allah Rabbul Izzah nous dit, qad aflaha al-mu'minun, Allah te garantit la réussite dans le akhira. Parce que c'est lui qui détermine qui a réussi et qui n'a pas réussi. On disait, il y a 3 jours, il me semble, dans Qala al-Mala'u, il me semble, dans l'histoire, le début de Qala al-Mala'u, quand Shu'aib alayhi salam s'adressait, il essaie d'inviter son peuple vers l'islam, et à un moment donné, le peuple a dit, ils l'ont menacé d'expulsion. Et puis ils ont dit, si quelqu'un se souvient du verset, et, si vous suivez, la inittaba'atum Shu'aiban, innakum idhan la khasirun. Ils ont essayé de parler aux sahaba, c'est-à-dire aux compagnons de Shu'aib. Ceux qui avaient cru en Shu'aib, si vous le suivez, vous serez parmi les égarés. Et Allah Rabbul Izzah a envoyé un tel azab sur eux, min fawqihim, par yom dhulla, par le jour obscur avec ces flammes qui venaient du ciel, par sayha, par le bruit qui les a terrassés, et par la terre qui a tremblé sous leurs pieds, qui les a détruits. C'est comme si que quand on regardait le village de Shu'aib, personne n'a jamais habité, alors qu'ils étaient riches, grands commerçants, le peuple de Shu'aib alayhi salam, détruit entièrement. Et en commentaire, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que le regard d'Allah et le regard des gens. Voyez la différence. On a un namouzaj, on a un exemple. Eux, al-mala, c'est toujours les malas qui font des problèmes. Les malas, c'est les notables. Ben, grandimoun, comme il dit. Les personnes importantes qui se considèrent comme des gens. Et eux, ils font preuve d'orgueil, de fierté, et ainsi de suite. Ce sont les mêmes qui, avec Nuh alayhi salam, dit, on va te suivre, wa taba'ak al-arzaloun. Attends. Vous connaissez, moi c'est qui? Moi, enfant, qui ça? Mais je vais te suivre alors qu'avec toi il y a des pauvres. Ça, c'est le problème d'orgueil et de fierté. Et eux, ils ont dit que vous suivez Shu'aib, vous serez dans la perdition. Allah Azza wa Jal, min fawqi sab'i samawat. Au-dessus des 7 cieux, envoyé un tel azab pour les montrer, et le verset ne me revient pas, le même mot est répété pour eux cette fois-ci. C'est eux qui ont. Alladina. Khair, inshallah. Revoyez le premier passage de Qala al-Mala'u, ceux qui ont suivi Shu'aib alayhi salam et ceux qui n'ont pas suivi. Et là, on voit, regarde Allah et regarde les gens. Ne vous fiez pas, n'attendez pas le regard satisfait des gens. Ah, barabar, là, il est bon. Non, le regard d'Allah, bas. Le regard d'Allah sur nous. Et pour qu'Allah soit satisfait de nous, ça transite par Kalamullah. Bien inconscient. Celui qui pense se rapprocher d'Allah sans transiter par la parole d'Allah. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand le prophète alayhi salat wa sallam nous rappelle taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu abada kitabullah wa sunnati. Je vous ai laissé 2 choses. At-tamassuk, c'est pas ittiba', c'est plus fort qu'ittiba'. C'est pas suivre, si vous vous y accrochez. Dans d'autres métaphores, je dis par avec vos molaires, accrochez-vous, mordez, tenez ferme. Vous suivez, vous ne serez jamais égaré. La parole d'Allah, Coran et kalam del Habib sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut être de le vrai et qu'Allah nous agrée, on doit absolument avoir un contact journalier, quotidien avec la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Bien sûr, sous l'autorité, en suivant avec quelqu'un qui a le ilm et qui a la possibilité de nous l'exposer. Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants. Quelle heure on a commencé, hein? Une heure. Khalas. Encore 10 minutes, inshallah. قد أفلح عن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. En introduction, muqaddama de cette sourate, Ibn Kathir rahimahullah, il a relaté pas mal de hadiths qui montrent la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu قد أفلح المؤمنون comme révélation. Hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umar al-Khattab, explique que le wahi est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba, ils savaient reconnaître quand le wahi descendait. On va pas entrer dans les détails. Et, famakathna sa'a, on a attendu un moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le wahi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'orientation de la qibla. Fastaqbala al-qibla, wa rafa'a yadayhi. Il a pris la direction de la qibla. Il a levé ses mains pour faire du'a. Quand on entend des gens qui disent « il lève pas la main, fait doua », il faut arrêter un peu. Les textes le prouvent. « Wa rafa'a yadayhi » Il a levé ses mains, hadith de Moussa l'imam Ahmed. « Faqal Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma karimna wa la tuhinna, wa atina wa la tuhrimna » Jusqu'à la fin du doua, il a fait un grand doua de « shukr » de reconnaissance et en même temps de talab, demander à Allah, accorde-nous, ne nous prive pas, élève-nous, ya Allah. Parce qu'il venait de recevoir un trésor. Et il a dit au sahaba ensuite, laqad unzilat alayya 10 ayat. Allah vient de me révéler 10 versets. Man aqamahunna dakhala al-jannah. Celui qui vit ces 10 versets, celui qui les met en application dans sa vie, il accède au jannah. C'est pas le prophète, il n'est pas en train d'extrapoler, na'oudhu billah. Quand il dit dakhala al-jannah, c'est il a reçu qadafallah al-mu'minun, et ensuite il reçoit une autre catégorie de wahi, qui est le hadith. Allah met dans son cœur un message, qui n'est pas le Coran, un message pour dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle le hadith, les paroles prophétiques. Allah met dans son cœur d'annoncer au mu'min, celui qui fait ça, il aura le jannah. Mais dans le verset aussi, ça se conclut par ulaika humul warithun, alladhina yarithun al Firdaus. On parle du Jannah et là on parle du Firdaus. Rasam dit que idha sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Si vous demandez à Allah le paradis, demandez directement le Firdaus, c'est le plus haut degré du Jannah sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Et donc les Sahaba quand ils entendent ça d'après vous, c'est quoi leur réaction? Allahu Akbar. Al-ittiba' immédiatement. Immédiatement, ils vont suivre, ils vont chercher, ils vont apprendre les versets et ils vont les mettre en application. Le sahaba dit que quand on mémorisait le Coran, les huffaz du Coran, les sahaba, c'était another level. Qu'on ne dépassait pas 10 versets sans comprendre et mettre en application. Après, on prend le deuxième sabbat. Après, on prend le 11e ligne. Pas comme nous, on prend 15 lignes, il avance, sabbat, il ne fait même pas, il avance. Comme un mashallah, ça va très vite. Puis qu'elle a fini, ah, mashallah, fait 4 ans, mashallah, Moubarak, mettre son grand turban, là, on a 4 mounes, 5 mounes, il n'y a plus à l'icône, je lui mets ce turban. Il est yad, oui, mais quelle relation il a créé avec le Coran? Quel lien il a véritablement avec Kalamullah? Et à combien de reprises il s'est dit que Allah m'a donné, il y a tout ça de mon cœur. Quand l'imam fait tarawih, surtout on parle de nos jeunes, nos ulama, mashallah, ils sont bien guidés, nos jeunes font tarawih. Il y a des jeunes qui font tarawih, mashallah. Mais réalise, Allah m'a donné tout ça. Quand ce soir vous allez lire, au Mambariyou Nafsi, c'est pas là en ce moment, à ce soir vous allez lire au Mambariyou Nafsi, vous vous rendez compte que ça défile. Je dis que tout ça, Allah m'a donné, Allahu Akbar, ça c'est trésor de la part d'Allah. Mais tout ce qu'Allah a mis dans ton cœur, c'est la guider ça. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى هُدًى لِلْمُتَّقِينَ C'est une guidée ça pour les pieux. Mais Allah m'a donné cette... Il y a des gens qui ont besoin d'ouvrir le Coran pour voir la guidée. La guidée elle est là, elle est dedans. La guidée est en toi. Et qu'est-ce que j'attends pour ouvrir cette guidée et avancer dans le Sirat al-Mustaqim et progresser dans le din? Donc les sahaba immédiatement ils vont mettre en application. Hadith également de Ka'b al-Ahbar. Non, on a dit un seul hadith, ça va être suffisant, sinon ça risque d'être trop long. On avait demandé, et voilà, qu'on parle d'ittiba', on avait demandé à Aïcha radiallahu anha, hadith très connu, mais connu partiellement, pas dans son intégralité. Hadith rapporté par Nasa'i. يوم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم او mère des croyantes Aïcha رضي الله عنها comme les arabes disent على رؤوسنا sur notre tête Aïcha رضي الله عنها c'est la femme du prophète, c'est celle qu'on aime le plus de ce dunya, on l'aime plus que notre maman Khadija رضي الله عنها Aïcha رضي الله عنها les épouses vertueuses du prophète عليه الصلاة والسلام et qu'Allah nous donne la possibilité d'être auprès des sahaba, d'être auprès des ahlul bayt, des ummahat al-mu'minin de le jannah. Ça doit nous faire rêver. Yawm al-mu'minin, comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a répondu, tout le monde connaît la réponse. Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, le hadith, c'est une autre version. Kana khuluqhu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an. Le comportement de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Qur'an. En général, on se suffit de ça pour parler du comportement. Mais le hadith, si on prend un peu plus de phrases, فَقَرَأَتْ et elle a lu قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ jusqu'à la fin de ces versets, jusqu'à وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ قَالَتْ هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ainsi était le comportement du prophète. C'est-à-dire le prophète, il a mis tout ça dans sa vie et les sahaba l'avaient mis dans leur vie. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Première qualité, peut-être qu'on peut se suffire de ça. Même si on ne va pas dans les autres, yakfi. Et c'est déjà un défi à relever. mais un défi qui ne nécessite pas les moyens financiers. Il n'y a pas besoin d'aller faire un prêt, un emprunt, et ainsi de suite pour avancer de le dîne. Il n'y a pas besoin d'avoir le soutien de quelqu'un non plus. Dans cette première sifat, première qualité, c'est entre toi et toi. Ça dépend que de toi. Bi'idnillah, toujours bi'idnillah. Mais il y a un travail à faire sur toi-même et ça commence tout de suite. Et il n'y a que toi qui peux réussir, bi'idnillah, et il n'y a que toi qui peux rater cet objectif, qui peut passer à côté, parce que tu ne l'as pas fait correctement. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont humbles de leur salat, la traduction est approximative. Ceux qui sont humbles, on pourrait mieux traduire en disant ceux qui font preuve d'humilité, de dévotion. La meilleure traduction, c'est la dévotion. Ceux qui développent al-khushu', la dévotion, l'humilité dans leur salat. C'est quoi développer l'humilité, le khushu' dans leur salat? Le prophète alayhi salatu wassalam, dans la description des signes de la fin des temps, il nous a rappelé que parmi les premières sifat, les premières qualités de foi qui vont disparaître de cette umma à la fin des temps, c'est al-khushu', la dévotion dans la salat. Ça va partir en premier de cette umma. Hatta takadu, jusqu'à ce qu'un moment, une personne entre dans une mosquée, il y a 100 personnes qui prient. Il n'y a pas un qalbun khashir, qu'Allah nous protège. Il n'y a pas un qui a le cœur soumis à Allah, le cœur rempli de dévotion. Alors qu'ils sont en prière, mais il n'y a aucune dévotion dans la salat. Comment on pourrait résumer le khushu'? Tout simplement par une phrase. عندما تصلي, lorsque tu pries, تشعر أنك أمام الله. بس, lorsque tu pries, réalise que tu es devant Allah. Réalise qu'Allah est en train de t'observer. Et je ne dis pas qu'Allah te voit. Non, c'est pas uniquement Allah te voit. Allah t'observe. Allah t'observe. Réalise qu'Allah t'écoute. Allah est Samir, il entend tout. Allah est Basir, Allah voit tout. Réalise qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur. Parce que je peux lire d'une très belle voix ou être très attentif, mais penser à autre chose. Allah va savoir que je pense à autre chose. Allah est alimum bidat al-sudur. C'est celui qui connaît ce qu'il y a, ce qu'il y a de le cœur. Et Allah est le seul qui connaît ce qu'il y a de le cœur d'une personne. Aucun être humain ne peut lire ce qu'il y a de le cœur d'une personne. Allah alimum bidat al-sudur. Donc, si tu réalises déjà, commence par ces trois attributs d'Allah. Le fait qu'Allah, il est alim, Allah est sami' et Allah est basir. Et réalise que tu n'es pas, excusez-moi l'expression, tu n'es pas devant n'importe qui, subhanallah. Tu es devant Rabbul Izzah. Tu es devant Allah al-Azim, al-Sami' al-Basir. Ala kulli shay'in qadir. La première chose, c'est une prise de conscience. C'est quoi cette salat? Il y a, subhanallah, mal de choses à dire. Khair, inshallah. On va essayer de faire de le tertib. Même si on tient de le temps, mais de le tertib, ce sera plus facile à comprendre. Le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle que la salat, c'est une communication avec Allah. Quand on a dit tout à l'heure que prendre conscience qu'Allah t'entend. Tout à l'heure, on a dit pas uniquement qu'Allah te voit, qu'Allah t'observe. Et même si au même moment, il y a, on va dire, 950 millions de personnes qui sont en train de lire, de faire la salat maghrib en même temps, en fonction des fuseaux horaires. Il y a au moins 950 millions qui sont en train de faire maghrib en même temps. Allah les observe un par un. Et Allah les voit du début jusqu'à la fin, sans perdre une seconde ou une fraction de seconde de leur mouvement, ou de leur parole, ou de leur pensée. Parce que Allah Azza wa Jal, c'est notre Rabb, notre Seigneur. C'est le ilm d'Allah Azza wa Jal. Si on devait parler du ilm d'Allah, c'est le ilm qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut imaginer. Ce dunya, c'est quoi pour Allah? C'est comme une bague que quelqu'un prend et jette, fi falat min al-ard. Quelqu'un prend une bague, il jette dans un terrain vague. Dans une métaphore locale, on va dire, prenez une bague, il jette d'un karokan, d'un shankan. Ça représente quoi, une bague par rapport à je sais pas combien d'hectares? Ça, c'est ce dunya par rapport au premier ciel. Et le premier ciel par rapport au deuxième ciel, même métaphore, c'est subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a des descriptions qu'on ne veut pas parfois expliquer parce que ça dépasse l'entendement, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort et on n'a pas le niveau pour encaisser tout ça. Spirituellement, on n'a pas le iman bil ghaib suffisant pour connaître tout ce uloum, ces uloum en rapport avec le rêve, en rapport avec l'invisible. Mais on doit réaliser comment on est infiniment petit devant Al-Azim, devant Allah qui est grand, qui est magnifique. Et le prophète nous a expliqué que la salat est une communion, une relation avec Allah. La salat est une communication avec Allah qui entend. Parce que là, il faut prendre conscience de ce hadith. Quand on commande namaz et qu'on fait réalise que quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah Azza wa Jal répond Hamidani Abdi. Et les anges sont témoins. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alameen, louange et pureté reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal te répond. Et répond à ces 950 millions de personnes qui lisent Al-Fatiha en même temps que mon serviteur a fait mes louanges. Et ainsi de suite, quand je vais lire اهدنا الصراط المستقيم او الله guide-nous vers le droit chemin. Allah Azza wa Jal répond après que tu aies fait tous les ta'alif, tous les louanges, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin. Quatre qualités d'Allah tu as mis en avant parce que tu es en train de, en guillemets, de flatter ton Seigneur, de montrer comment tu es attaché à lui. Et ensuite tu vas dire iyyak, et là tu vas manifester ton iman en lui. Iyyak na'budu, ya Allah, c'est toi uniquement que j'adore. Wa iyyak nasta'in, et Allah, c'est uniquement près de toi que je trouve secours et refuge. C'est-à-dire mon cœur est lié à toi, toutes les situations j'ai, il y a Allah dans mon cœur. Et quand on demande ihdina as-sirat al-mustaqim, Allah Azza wa Jalla répond mon serviteur m'a demandé, falillahi falahu ma sa'al, et je lui accorde ce qu'il a demandé. Prends conscience qu'Allah t'écoute, Allah écoute ta Fatiha, et on va rectifier. Le but c'est pas de rectifier notre tajwid, hein, c'est pas uniquement ça. Même si on lit un tajwid mukassar un peu bancal, le plus on essaie de s'améliorer bien sûr. Le plus important c'est de ressentir et de le faire sincèrement avec conviction. Donc déjà première étape, réalise ce hadith magnifique qui rappelle la conversation entre le serviteur et son Seigneur dans chaque salat, salat faraz, salat nafil également. Quelle que soit la salat, c'est une relation, c'est une communication avec Allah. Et mon degré de khushu doit arriver à un tel niveau que, ça c'est à la fin, hein, que quand je suis en prosternation, je dis Subhan Rabbi al-A'la, j'arrive à faire le lien entre le fait que le sujoud, c'est la position de la salat qui me ramène le plus proche du sol, lui ou non ? Je suis le plus proche du sol, la partie la plus haute de mon corps est la plus proche du sol. Le front, le visage, l'endroit le plus honoré. Quand on veut voir la beauté de quelqu'un, on regarde son visage. Le visage, c'est ce qu'on soigne, on essaie de lui donner la meilleure des apparences. On le met sur le sol pour Allah. Et dans le sijida, ce n'est pas pour rien si tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Et al-A'la, c'est en rapport avec le sifat d'Allah, al-Ulu, celui qui est le plus haut. Toi, tu te mets au plus bas et tu te fais les louanges de celui qui est le plus haut pour que tu te mets à ta place de makhlouq et tu réalises que tu es devant al-Ali, celui qui est le plus élevé. Al-Kabir, Allah qui est le plus grand. Tout ça, shu'ur, tout ça il faut ressentir, il faut travailler, il faut apprendre, connaître ces points-là et il faut les faire vivre dans la salat. Pas, et vous allez voir, première chose, alors on va dire que ça c'est un objectif noble ça, mashallah. Quand je dis Alhamdulillah Ibrahim, je pense à tout ça. Quand je dis Subhanallah Rabbi Al-A'la, j'arrive à réaliser. Mais comment je namaz, je pense à autre chose, ça c'est instinctif. Même si je me concentre, au bout de quelques instants, ça s'en va. Quelle solution apporter à ce problème spirituel? Ça, c'est une maladie du cœur qui nécessite tazkiyatun nafs. Et tazkiyatun nafs par les conseils de notre prophète alayhi salatu wassalam. Premier conseil prophétique, premier conseil qui découle, on va dire, de l'enseignement prophétique. Quand une personne vient à la salat, que la personne vienne avec sakina. Pas avec ce qui fait appel sakina, non, non. Avec sakina, avec la tranquillité. Il y a des gens qui font même motifier masjid, mais ça ne peut jamais dire ça. Non, tu viens avec la tranquillité du cœur. Il dit mon copine, appelle sakina, elle est battue là, ça fait péché dans masjid. Non, non, la sakina là-bas. Marié avec l'inshallah. Et quand je viens à la masjid, je viens avec sakina, avec le cœur apaisé. Quitte ta maison en ayant accompli le wudu, les ablutions, qui te lavent de tes péchés. Parce que chaque pas que tu fais en venant à la masjid avec les ablutions, ça te donne des hasanats, ça te takfir ou sayyat, ça enlève des péchés. Dites-moi, les péchés sont greffés où? Quand on demande à un jeune que faire régime, la graisse, c'est graissé où? La graisse est stockée où? Ah, la graisse abdominale. C'est la spécialité du ulama. Pas moi, non, mashallah. Ah non, graisse abdominale. Hein? C'est graisse abdominale ou tel endroit. C'est là qu'on doit essayer de travailler, faire les musculations, pour perdre ça. Maintenant, je vous pose une autre question plus dérangeante. les péchés sont greffés où? Vous dites dans le livret de compte? Oui, oui, c'est inscrit dans le livret de compte. Maktoub. Kiraman katibina ya'lamuna ma? Ma taf'aloun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est noté ça. Mais me concernant, où vont mes péchés? Mes péchés, malheureusement, ça ne va pas dans un compte aux îles Caïmans, ni en Suisse. Non. Mes péchés, c'est directement là, t'es là. Et qu'est-ce qui permet à l'homme de créer sa relation avec Allah? C'est quel organe? Le cœur. Par exemple, il dit que dans le corps de l'homme, il y a quelque chose. Si ça, c'est pur, le corps va bien suivre. Si ça, c'est malade, c'est tout le corps qui sera malade. C'est quoi ce mudra? C'est al-qalb. Et le problème, quand je commets un péché, c'est que ce péché-là, il est inscrit, oui, inscrit par les anges, par l'ange de ce côté. Le corps qui accomplit le péché. Si c'est le zina du regard, on est entre nous, enfin on n'est pas qu'entre nous, c'est vrai. Mais quel est le péché le plus répandu, le plus difficile? Radd al-basar, oui ou non? Le contrôle du regard. Il ne faut pas faire l'intéressant, hein, sauf s'il y a des grands bouzouks, diamant, il vient faire bête exode. Mais le contrôle du regard, ici, c'est compliqué. C'est extrêmement, extrêmement complexe. Et on prend cet exemple. Quand tu as regardé ce que tu ne devais. Et ça va dans les deux sens, hein. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Allumeuse, mais alors pourquoi vous riez? Ah, astaghfirullah, ben tishaitan, regardez, hein. Allumeuse, mais alors. Et ensuite, il y a eu quoi? Le dernier, c'est quoi? Irrésistible, accessible, mais alors. Accessible, Photoshop, ça n'existe pas, abdos parfaits comme ça. Il n'est pas vrai, hein. Je dis, ben, madame de Maillet, il n'est pas vrai, rote pas. Un point. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Le contrôle du regard, c'est impératif tant pour l'homme que pour la femme. Nous sommes tous des êtres humains avec cette faiblesse. Cette faiblesse qui un jour doit être concrétisée en nikah. Comme notre jeune frère a été guidé vers le nikah, on a un jeune frère là, mashallah, Allah lui accorde une épouse vertueuse, et tous ces jeunes de cet endroit, qu'Allah vous accorde l'épouse vertueuse qui vous permettra d'avancer dans votre dîn. Quand on prend cet exemple, le péché, j'ai regardé le zina, j'ai regardé ce que je ne devais pas regarder, l'ange l'a écrit, le corps l'a enregistré, et le corps témoignera contre nous le jour de Qiyam. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. Le corps va témoigner, la terre va témoigner. يومئذ تحدث أخبارها. Selon l'avis de certains savants, la terre va témoigner contre nous jour de Qiyama pour le péché qui a été accompli sur son dos. C'est grave comme conséquence un péché. Et ça, c'est pas tous les péchés. On a nos protèges. Maintenant, ceux qui prennent la voiture le samedi soir, ils vont en boîte de nuit. Ou ceux qui vont sortir avec une fille qui vont faire le haram. Celui qui quitte sa maison pour aller à la banque. Il n'y a pas de sujet d'abou, moi, mais dis toutes affaires, hein, dans la figure. Pour nous-mêmes, dans notre figure, on comprend. Celui qui quitte sa maison, qui va à la banque, il va faire un emprunt avec riba, avec l'intérêt 2,5%, 5%, 6%, 0% s'il faut, parce que 0% ça n'existe pas. Et qui consomme de l'argent haram, et qui va grandir son commerce avec l'argent haram, qui réalise pas que Yahari, garde tes 25 mètres carrés sans l'intérêt, il y a baraka dedans. Pas besoin de faire comme l'autre qui a une grande enceinte. Pas besoin d'acheter un deuxième local. Pas besoin absolument d'avoir un magasin Saint-Denis pour être parmi les mouflihin. Et emprunter un chemin de haram. Déclarer la guerre à Allah, son prophète. Et être ressuscité. Comme qu'alladhi massatuhu shayatin. Jour de Qiyama, quand il y en aura qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Honoré et admiré par Al-Khalq. Et là, l'admiration sera permise. Et on pourra en être fier. D'autres vont se ressusciter comme des fous. Comme quelqu'un qui est possédé par le diable. Parce que de ce dunya, il a utilisé l'argent de l'intérêt, l'argent haram. Donc quand j'accomplis ces péchés, prise de conscience que ça, c'est grave. Et qu'il y a tellement de témoins qui l'enregistrent. Mais ce n'est pas tout. Malheureusement, ce n'est pas tout. Ce péché m'empêche de me rapprocher d'Allah. Parce que le prophète alayhi salat wa sallam explique que quand un mu'min accomplit un péché, il y a un point noir qui s'inscrit sur son cœur. S'il demande pardon, et c'est quoi demander tawbah? C'est tawbah al-nasuha, avec regret, remords et l'intention ferme de ne plus recommencer et prendre ses distances avec les asbab, tout ce qui t'amène vers le péché. Tu as demandé pardon à Allah azza wa jal, le point noir s'en va. Rahmatum min Allah. Tu n'as pas demandé, Allah demande aux anges de ne pas inscrire tout de suite le péché. Attends peut-être que mon serviteur reviendra. Ça, c'est tout à clément. L'amour qu'Allah a pour nous. Qu'Allah a pour l'Aïssa du Coran. Qul ya ibadi. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله parle aux gounégards, aux pécheurs comme vous et moi. Mais Allah s'adresse à nous avec des termes tellement, avec des termes remplis d'amour plus qu'une maman aime son enfant. Quand l'enfant fait une bêtise énorme et qu'il répète, à un moment donné, la maman ne veut même plus regarder l'enfant et elle est en colère. Allah Rabbul Izza nous regarde toujours avec son regard clément, dit, قل يا عبادي, ô mes serviteurs. Comme Allah appelle ceux qui excellent de la foi, wa ibadur Rahman. Allah nous appelle également les pécheurs. Vous êtes mes serviteurs, vous êtes trompés, mais revenez maintenant. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la clémence. Ça, c'est le karam, ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Ça, c'est la générosité de notre Seigneur. Et donc, lorsque moi j'accomplis ce péché et que Allah demande aux anges, attends un instant, mais si après un laps de temps, dans certains commentaires, on parle de 5 ou 6 heures à peu près, si le mu'min ne revient pas et ne demande pas tawbah, le point noir est définitivement inscrit dans le cœur. Et le point noir ne sera enlevé que s'il y a tawbatun nasuha. Et quand le cœur devient noir, qu'est-ce qui se passe? Les ulama explique que le cœur devient insensible. Le cœur devient dur. Le cœur devient sec. Il y a comme une carapace qui se forme autour du cœur. Et le cœur ne penche plus vers kalamullah, ne penche plus vers kalamun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur n'arrive plus à bénéficier de la lumière du Coran. Et c'est pour ça qu'on écoute le Coran, on fait des actions, mais intérieurement on sent qu'on n'avance pas. C'est les dhunoub, kathratu dhunoub. Donc ikhwani fillah, le péché, enfin on est parti dans un peu loin. Première chose, c'est faire le wuzu à la maison parce que ça enlève nos péchés. Et si en marchant il y a des péchés qui tombent, retenez l'exemple des péchés qui sont enlevés, même s'il y en a une dizaine, si je ne sais pas combien de pas on fait, même si on habite en face et les péchés qui sortent, ça me donne plus de chances de trouver la concentration, parce qu'un cœur noir ne trouve pas la dévotion. Mais un cœur qui est pur comme nous là en ce moment dans le mois de Ramadan, le cœur il est rempli de lumière, on trouve l'envie, comme on l'a dit, de faire les bonnes œuvres. Donc première chose, essaie de faire les ablutions chez toi. Deuxième conseil qui découle des enseignements prophétiques, viens avec la quiétude. Pas quand Namaz commence, tac, tac, marche vite, il arrive, il y a 3e rakat. Malheureusement, c'est le cas de la plupart d'entre nous. On arrive de 1e rakat et viens au premier rang. Fais un mujahada. Quand on fait un pas vers Allah, Allah fait 2 pas vers nous. Quand on vient vers Allah en marchant, c'est une métaphore. Allah vient vers nous en courant. C'est-à-dire que tu fais un effort, Allah ouvre en grand les portes. Allah aime voir ce serviteur qui a envie de se rapprocher de lui. Tu as fait un sacrifice, tu as quitté ta maison. Maintenant, on a masé une heure. La salah ici, c'est 13h, salat al-dhuhr. Au lieu de quitter chez toi à moins 5, quitte ton domicile à 12h30. Fais ce sacrifice de temps pour qui? Pour Allah. Et Allah te le rendra en te donnant la possibilité de faire 2 pas maintenant vers lui. En te donnant le tawfiq de t'avancer encore plus. Tu viens tôt, tu as fait les ablutions, tu te mets au premier rang. Si la Ummah savait ce qu'il y avait au premier rang, il viendrait habouatan, même s'il fallait ramper, il viendrait au premier rang, tellement le premier rang s'est rempli de récompenses. Avant de démarrer le salat al-dhahr, fais tes sunnah, rawatib, fais tes 4 sunnah avant le salat al-dhahr. C'est une première concentration. Et afin que lorsque la salat commence, subhanallah, tu as déjà créé une relation avec Allah. Hadith de Kalif Prasam stipule que celui qui vient à la masjid et qui attend la salat, il est inscrit parmi les musallin, tant qu'il est dans la masjid, qu'il ne fait pas autre chose. Et les anges également font doua pour cette personne. Réunir les conditions, premièrement, en faisant ses efforts. Deuxièmement, et là on parle de la salat en elle-même. Afrigh qalbaka. Ibn Kathir, rahimallah, explique. Tout le monde connaît Ibn Kathir. Tout le monde a entendu parler d'Ibn Kathir, j'espère. Le plus grand, ou un des plus grands mufassir, quelqu'un d'extraordinaire, exceptionnel. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique, Afrigh qalbaka min jami'i humum ad-dunya. L'effort que tu dois faire sur toi-même, enlève de ton cœur tout autre projet, si ce n'est le projet de te rapprocher d'Allah et de trouver la sérénité dans la relation avec Allah. C'est-à-dire que vide ton cœur de toute pensée de dunya. Et certains savants donnent cette explication également. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est une explication un peu greffée, hein, de contemporain. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est comme si que tout le dunya, tu le renvoies derrière. Et tu gardes juste ta relation avec Allah qui est devant toi. Donc, les savants disent, c'est le premier effort. Ça dépend de nous. Rester concentré. Quand on sent qu'on est en train de dévier, on se ramène nous-mêmes. Ibn Kathir, rahimallah, il explique également, Al-khushu'a fi salat, innama yahsul liman farragha qalbahu laha. La dévotion dans la prière est réservée à ceux qui vont enlever de leur cœur toute autre chose que la recherche de l'agrément d'Allah et la prise de conscience de cette position qui est devant Allah Azza wa Jal. Et on pourrait conclure à rajouter en disant que c'est le moindre des respects aussi, oui ou non? On se présente devant Allah et on pense à notre magasin, on pense à la famille, on pense... Non, on est devant Allah, on pense à Allah uniquement. Et vous savez quand est-ce qu'une action sera productive? Quand il y a le corps, quand le corps et l'âme se fusionnent pour un même objectif. Il y a quelques philosophes, il y a que, vous savez, ceux qui font un peu la méditation et tout, quand ils disent le corps et l'âme, des trucs comme ça. Mais quand le corps est présent, il est immobile et qu'il y a la concentration également. On pense à Allah et le corps se soumet à Allah. Là, c'est productif. Un corps immobile, une pensée évasive, ça ne nous apportera rien en termes de khushu. Un cœur rempli d'amour pour Allah. Là, je parle pour les philosophes musulmans. Les islamologues, il y en a un. Qui dit que j'aime Allah, Allah est dans mon cœur, je respire. Je respire la moi d'Allah. T'es là, Fajr? Non, j'étais en train de respirer la moi d'Allah chez moi. J'étais en train de rêver de mon Seigneur dans mon lit. Mais un cœur pur et soumis, sorte là. D'accord? Cœur rempli de dévotion pour Allah, mais le corps également doit être rempli de dévotion et se soumettre à Allah Azza wa Jalla. Donc, les préparations de la salat, venir tôt, faire vos ouvres à la maison, marcher pour venir à la masjid, premier rang. Et quand tu démarres la salat, tu te dis que c'est pour Allah uniquement et on enlève toutes les autres pensées. Et si on pense à quelque chose d'autre, on fait l'effort de ramener la pensée d'Allah et Allah va nous donner la possibilité par cet effort de le développer encore plus. Deuxième point, pas troisième. La Bouddha Tash'ur bi tadhallul wal khudu' ressent la soumission et ressent cette sensation d'écrasement devant Rabbul Arsh al-Azim, devant le Seigneur du trône, devant le Créateur des cieux et de l'univers, et réalise qu'on aura besoin de sa Rahman le jour de Qiyamah pour être délivré de l'enfer. Quand tu dis Rahman, Rahim, ben c'est ce Rahman qui aura Rahman pour toi là-haut et qui te protégera contre le feu de l'enfer. On cite juste les points, on ne développe plus parce qu'on est un peu long là cette fois-ci. Troisième conseil, tadakkar, réalise, ça c'est ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure, réalise le nombre de makhlouqat qui se prosternent devant Allah, les anges, comment ils adorent Allah, et toi dans ta situation, avec autant de péchés, de maladresse qu'on cumule au quotidien, Allah t'a choisi pour quitter ta maison pour venir faire la salat. Considère-toi comme quelqu'un de chanceux qui n'a aucun mérite. Je ne mérite pas, parce que quand le muadhin dit « Hayya al-salat, dit la hawla wa la quwwata illa billah », toute la force, c'est Allah qui donne tawfiq de venir. Et si Allah m'a amené, c'est un cadeau. Je ne le mérite pas ce cadeau. Allah m'a donné cette chance. C'est comme si on a trouvé une petite place, on est rentré et on se fait tout petit, vraiment. Et on essaie de profiter au maximum de ce moment. Réalise que la position dans laquelle l'homme est le plus proche d'Allah, c'est le sujoud. Et dans le sujda, tous les doigts sont exaucés, sont acceptés. Mais que Allah te donne la possibilité d'être en sujda, même une fois, c'est un cadeau, une faveur de la part d'Allah. Le jour de Qiyamah, dans la surat Al-Haqqa, ou alors la fin de la surat Al-Haqqa, une des deux surats de Tabarak Al-Ladhi, il dit que وَيُدْعَوْنَا إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Le jour de Qiyamah, lorsque les mu'mines, les croyants, vont recevoir l'ordre de se prosterner devant Allah, les gens vont se jeter en sijda devant Allah. Pense à ce sijda. Pense que je prie, je me prosterne là, pour que le jour de Qiyamah, Allah me donne tawfir de faire cette ultime prosternation devant lui. Cette ultime sijda devant lui. Et à ce moment-là, il y a des gens qui vont essayer, mais qui n'arriveront pas. Ibn Kathir, il y a Sa'adi, rahimahullah, explique que leurs dos vont devenir droits et raides, impossible de se mettre en prosternation. Ce seront les gens qui iront prêts. Ce seront soit les munafiqs, les hypocrites, ou alors les gens qui priaient par ostentation, qu'Allah nous protège. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir et de As-Sa'adi. Donc, sujud lillah, avec espoir, ya Allah, je m'applique dans ce sujud, ya Allah, choisis-moi pour être de ceux qui vont se prosterner devant toi le jour de Qiyam. Parce que celui qui se prosterne devant Allah, le jour de la vérité, Maliki Yawmiddin, le jour de la délivrance, le jour des comptes, c'est celui qui est vraiment agréé par Allah. Allahumma ja'alna minhum. Pense également à contrôler ton corps, les bras immobiles, la tête, le regard rivé sur le sol, la tête baissée, et ressens que Allah est en train de t'observer. Le regard d'Allah sur soi, ça doit être quelque chose d'extrêmement lourd. Voyez, un exemple de décalage. Un élève, quand il est en lien madrasa, quand le professeur n'est pas là, là, c'est la fête, il jette bonnet, il crie sur le tableau, il fait tout en un spinner, deux mains, il met sur le nez, il fait le toit du monde, il fait toutes les histoires. Allah Moustan. Quand le prof entre dans la classe, soukout. Mais plus encore, il peut avoir un silence hypocrite. Il ne parle pas, mais il ne travaille pas. D'accord. Mais quand il est en train de lire son sabbat, le professeur il prend sa chaise, chacun est assis sur une table. Le professeur prend sa chaise et il se met en face de l'élève, il le regarde, il l'écoute lire. Bien sûr, il y a bien. Le qalqala, la litiaou du fin fond de je ne sais pas quel pays, il ramène le qalqala. D'accord ? L'élève va s'appliquer parce qu'il ressent le regard qui est très loin du oustad, du professeur. Nous devons essayer de ressentir le regard d'Allah sur nous. C'est ce qu'on appelle, mais vous savez, ça c'est un natija, ça. Et on appelle le muraqabatullah. C'est quoi le muraqabatullah? Muraqaba dans le sens pur. Muraqaba, c'est pensée permanente d'Allah. C'est n'oublie jamais qu'Allah est en train de te regarder. À tout instant. Jusqu'à ta mort, Allah t'observe. Et Allah observe tout le monde de la même façon. Comme cela, c'est à Allah Azza wa Jal. Et celui qui sent le regard d'Allah sur lui, ben, quand il doit faire une bonne action, il le fait avec application. C'est ce qui nous amène vers l'ihsan. Adore Allah comme si que tu le vois. Comme si que tu as ressenti ce regard d'Allah sur toi. Comme si, on avait cet exemple bien, quand tu pries, fais comme si que tu es comme le prophète alayhi salatu wassalam devant le trône d'Allah qui reçoit la salam. Fais comme si que tu es comme Moussa alayhi salam qui reçoit la révélation de la part d'Allah et Allah est en train de parler avec lui. Ressens cette proximité avec Allah. Ressens cette proximité avec Allah. Ce muraqabatullah, si je le travaille tout le temps, dans toute ma vie, face au bon, quand je dois faire une bonne action, je le fais avec tahsin. Et face à un péché, je ressens le regard d'Allah et je détourne mon regard. J'entends le dernier clip, le dernier rap, les derniers trucs dans le bus ou à la radio quand je change de chaîne. Vaut mieux écoute Freedom, le bouc de la paix, le socabri, il est meilleur qu'écouter le rap. D'accord? Tout de suite, tu changes de fréquence, même si c'est une musique qui te parle, comme on dit, il parle à ton diable qui est en toi. Il te parle pas, il parle au diable qui est en toi, ton qareen. Qui, lui, il danse quand il écoute ça. Il aimerait que tu l'accompagnes. Qu'Allah guérisse nos jeunes de la maladie spirituelle qui est accompagnée par la musique qui ferme les cœurs au Coran. Qui ferme les cœurs au Coran. Et qu'Allah nous protège de ces discours ouverts et que j'appelle plutôt des discours libertins qui disent que la musique, c'est bien, il n'y a pas de mal. A'oudhu billahi sallallahu alayhi wa sallam, atta, wal-afiyah. Si durant toute ma vie, j'ai le muraqabatullah, ce regard d'Allah sur moi, quand je vais voir cette fille qui est bombastique, mais je me contrôle parce que dis Allah est en train de me regarder, ça c'est une preuve que tu es de le vrai. Ça c'est muraqabatullah. Et si j'ai le muraqabatullah durant toute ma journée, quand je suis devant Allah, ce muraqaba, il est là, il est installé. J'ai construit ses bases dans le dur, dans la difficulté de la vie du dunya. Mais quand je suis seul devant Allah, dans la relation de iman, de sa spiritualité, dans une masjid, dans une mosquée remplie de lumière, ce muraqabatullah, je vais le développer immédiatement. Je prie et je ressens le regard d'Allah sur moi et j'arrive à me concentrer. Pourquoi? Parce que toute la journée, j'ai fait cet effort. Donc, la khushu', c'est pas un claquement de doigts. C'est pas moi qui fait doigt, Miguel Conce dans un namaz. Les bons bêta m'a fait doigt pour. Elle est bon maintenant. Ou alors dit, mais ça, tu t'avises. Tu t'avises, soit où m'y accroche, soit envoyé en PDF sur mon portable, mais mettre dans la poche. T'avises, il n'y a pas de t'avise, il n'y a pas de doigt, il n'y a pas rien. Ça vient, comme on a dit, ça ne peut venir que de toi. Éloigne-toi du haram, fais de bonnes actions, pense à Allah tout le temps. Reste le dhikrullah. Quel est le contraire du dhikr? Elle rafle à l'insouciant. Ne sois pas rafil. Sois pas celui qui écoute les informations. Combien de fois on écoute les informations, des trucs routiers, ainsi de suite. Vous êtes dans la voiture, écoutez pas mal de durous, de grands chouyouf, mashallah. Ils expliquent que dans l'embouteillage, sabbihillah, ihmadillah, istaghfirillah, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Nous, on a la chance, la réunion, on a beaucoup d'embouteillages, mashallah. C'est l'occasion, on devient des zakirin, Allah kathira, uniquement sur la route littorale qu'elle est basculée. Quand on est en mode canal bichik, c'est ni'ma. Tu deviens mindak, tu peux dire un sipara. Notre professeur de Coran dans les années d'université, c'était des gens qui maîtrisent, subhanallah. Il dit que quand il fait Makkah Madina, il passe pas une seconde à faire autre chose que ibadah dhikr Coran. Et rajouter à cela namaz nafil assis. Dans certains madhab, c'est possible. Mais il dit que rester qalb, le cœur reste avec Allah, 4 temps. À nous, 4 temps, quand on a le bus, ça peut quoi il fait? Dors, la tête comme ça, il commence à baver, son ihram, il est fatigué, qu'il y arrive, allons manger, al-bayk, il moussab, al-bayk, t'es là, pourquoi il est parti, mais le restaurant, il est pourri, la toilette sent mauvais, il vend le poisson, qu'il est passé, il est bon. Pense à mille et une choses. Istaril al-waqt, profite de ton temps. Si durant toute ma journée, je pense à Allah, j'essaie de rester qalbun dhakir et dhikrullah dans le cœur, mais également par les actions, je m'éloigne du haram, je fais tout ce que je peux faire de bien, quand tu es dans la salah, mais tu es devant celui pour qui tu fais muraqaba en permanence. Tu es maintenant exposé en face de celui pour qui tu te contrôles, pour qui tu as contrôlé tes regards 15 fois depuis ce matin, pour qui tu as fait la salah de Fajr, ainsi de suite. Le cœur ressent ce regard d'Allah. Et là, on trouve la dévotion. Donc, travailler notre quotidien, on trouvera, incha'Allah, la concentration dans la salah. Ifham, comprends le sens de soumission à travers le gestuel, debout, la tête baissée. Et souviens-toi que le jour des comptes, tu seras debout, la tête baissée devant Allah. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman, sans qu'il y ait un intermédiaire. Et Allah nous fera reconnaître chacun de nos péchés, qu'Allah nous protège. Et que lorsqu'on parle du muraqabatullah, comment ce regard d'Allah est lourd? Dans un hadith, ça m'explique que Allah appellera un serviteur, il lui fera reconnaître. Est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait telle chose? Est-ce qu'en tel jour tu n'as pas fait tel péché? Et il sera obligé de reconnaître. Et les savants disent, il n'y a rien de plus difficile, de plus lourd, que de recevoir des reproches de la part d'Allah, qu'Allah nous protège. Et il dit que cette personne, en cet instant, aurait aimé être mort, ne pas avoir existé, plutôt que d'écouter les reproches d'Allah. Le regard d'Allah, c'est lourd, le jour de Qiyamah, qu'Allah nous protège. Essayons de penser à ce Rabb qui va nous juger, et essayer de développer et de ressentir le regard d'Allah. Tu es dans le recours, c'est la position la plus difficile de la salah. Où le dos il fait mal, la sciatique il lève, ainsi de suite. Mujahada, oui ou non? Après, il y a le sens profond du rukou. Mais ce qui nous intéresse là, réalise que c'est une position difficile, tu le fais pour Allah. C'est ton sacrifice pour Allah. Et le summum de la salah, c'est quand tu es resté debout longtemps, tu attends avec impatience le sijida. Pas parce que sijida, il fait un petit sommeil. Non, dans le sijida, tu es le plus proche d'Allah. Et tout ce que tu as dit à Allah, tous les louanges que tu as fait, tu vas maintenant te prosterner et te dire Subhana Rabbi al-A'la. C'est le moment où tu seras le plus proche d'Allah, la position où les du'as sont acceptés. Et on pourrait rajouter un dernier point, le vrai dernier cette fois-ci. Tadabbur, essayer d'étudier tout ce qu'il y a dans la salah. Et Al-Ghazali, rahimahullah, explique que la salah se distingue de la zakat, du saum et du hajj par la présence de cœur. Après c'est fini, je vous promets. Par la présence de cœur qui est obligatoire. Quand quelqu'un donne zakat, est-ce qu'il faut dévotion? Ça, c'est mon l'argent de zakat. Bah, il met dans une boîte aux lettres, donne le bout, le vin, va donner. Pas besoin de faire tout ça en trinque, là. Quand quelqu'un accomplit, quand il est en état de jeûne, ben, alhamdoulilah, tu respectes, tu ne manges pas, tu ne bois pas, ça va. Il n'y a pas besoin de concentration. Concentration, les amal, on l'a compris, mais dans l'action en elle-même, non. Quand quelqu'un fait le hajj, il dit, lui, il faut penser à Allah, il ne faut pas penser. Oui, mais je veux dire que le khushu' n'est pas demandé dans chaque instant du hajj. C'est pour ça qu'on dort, Muzdalifa, quand on finit Ramaz Galé. Il dort. Donc, il aime Ramaz Galé, ça, il aime ça. Ramaz Galé, la vie, il est content, malade, mon galé. Mon amal soit accepté, Allah accepte. Mais le soir, Muzdalifa, il faut dormir. Il n'a pas fait grand tahajjud, Muzdalifa. Dors! Parce que demain, on a le choc que ça tape shaitan. D'accord? Il faut être fort, il faut résister. La kurbani, on a le tawaf à faire, le sa'i à faire, ainsi de suite. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessité d'avoir qalbun hadr, un cœur présent à chaque seconde du hajj. Il y a des fois où tu dors, des fois tu te reposes, d'accord? Mais la salah, Ibn al-Ghazali, rahimahullah, il explique que la salah, c'est dévotion du début jusqu'à la fin. Et si dans ton cœur il n'y a pas la dévotion, il n'y a pas réellement, il n'y a pas une véritable salah. Il dit فَأَيِّ سُؤَالٍ فِي قَوْلِهِ اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَكَانَ الْقَلْبُ غَافِلًا عَنْهُ. Que vaut cette demande اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, guide-nous vers le droit chemin, alors que le cœur n'y pense même pas. Qu'Allah nous protège. Donc c'était pour le point de conclusion. Ce qui nous ramène vers un autre conseil. Maintenant on a vu quelques points concernant les positions de la salah. Ce qui nous permettrait vraiment de trouver la concentration de la salah, faire partie des personnes qui sont fi salatim raji'un, étudier al-Fatiha, tafsir. Et ça, c'est nos ulama. Dans chaque masjid, il faudrait absolument qu'il y ait un darj de tafsir. Ça, c'est vraiment raja'an. Que les musallis peuvent apprendre le sens du Coran avec les ulama qui sont présents. Apprendre le sens du Coran crée une connexion. Et j'encourage ceux qui l'ont fait, alhamdulillah. Mais il faut y aller, il faut faire l'effort, lillahi, pour Allah Azza wa Jal. Et ça nous apportera la dévotion de connaître et aider dans salat al-mustaqim, de comprendre Maliki Yawmiddin. Et vraiment, quand quelqu'un a compris Maliki Yawmiddin, et il connaît c'est quoi Yawmiddin, comment la houle est terrible. Et il sait qu'il s'adresse au Malik, celui qui contrôle Yawmiddin. Mais assure où il baisse son tête. C'est sûr qu'il va avoir la dévotion parce qu'il s'adresse à celui qui a sa vie entre ses mains, qui a ma vie entre ses mains. C'est lui qui décide de l'avenir de Jannah ou du Nar. Donc, je le dis, Malik Yawmiddin, avec beaucoup de tawadu', beaucoup d'humilité et de istislam, de soumission à Allah Azza wa Jalla. Donc, apprendre le sens d'Al-Fatiha, étudier le sens des 10 derniers sourates. ce qu'on lit régulièrement. Et on va aller un peu plus loin. Ça, par contre, c'est un peu plus complexe. C'est moins accessible parce que ça n'a pas été traduit malheureusement en français. Les adhkars de la salah. Les adhkars de la salah, c'est quoi? سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ربنا لك الحمد التحيات لله والصلوات والطيبات. Combien de fois dans notre vie on a lu التحيات? Mais combien d'entre nous on sait ça veut dire quoi التحيات لله والصلوات والطيبات? Est-ce qu'on réalise ça? Ça, il y a une nécessité. Si tu as compris la ligue, tu as compris les adhkar, subhanallah, cette salat-là, assurément, elle sera belle, elle sera remplie d'humilité et de dévotion. Et par rapport à ça, on avait prévu une intervention, ce sera la semaine prochaine au tampon, inshallah. C'est très loin d'ici, tampon. L'objectif de l'intervention de la semaine prochaine, c'est l'étude des adhkar de la salat. Subhanallah, subhanallah, azim, tashahud, durud sharif, Allahumma inni dhalamtu nafsi, et ainsi de suite, pour que vraiment on a cette connexion et qu'on ait une compréhension complète de la prière. On aimerait faire de ce Ramadan le mois de la dévotion. Ne pas parler d'autre chose, de zakat, ceux qui le font, alhamdulillah. Mais on s'est fixé un objectif, travailler le cœur, que le cœur arrive à se soumettre à Allah par les actions que je fais déjà au quotidien. Pas un effort que tu dois ramener, une action que tu fais déjà, travaille ça. Parce que le serviteur ne se rapprochera jamais d'Allah aussi bien que par ce qu'il a rendu obligatoire. Hadith Qudsi, qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, que ces paroles pénètrent nos cœurs, pour moi en premier, pour nous tous, et qu'on arrive vraiment à développer des qualités de iman durant ce mois pour nous rapprocher de lui avec istiqama et pour nous éloigner définitivement des harams. Je vous donne un conseil en or qu'on a entendu par un cheikh récemment. Donne trois moments de ta journée pour Allah durant ce mois béni. Un moment à l'heure du sehri, le suhur. Idéalement 60 minutes pour Allah. 30 minutes tahajjud. 30 minutes tahajjud. Et lis des versets que tu ne lis pas tout le temps. Tahajjud ba ya pa wal asr inna al-insana fi khusr fa inna a'tayna al-kawthar. C'est maqboul, hein, c'est accepté sans le moindre doute. Essaie d'amener des lectures un peu plus longues. Si on connaît Yassine, on lit Yassine. Si on connaît Tabarak al-Ladhi, on connaît Kahf, on connaît Al-Waqi'a, on essaie de les lire. D'accord, 30 minutes de tahajjud. Mieux 2 rakats avec dévotion que 10 rakats qu'on fait vite, on enchaîne. Le tout, ce n'est pas le nom, mais la qualité. 15 minutes istighfar. 15 minutes istighfar, le dernier tiers de la nuit, ça c'est de l'or ça. Et pense à tes péchés en demandant istighfar. Et 15 minutes munajat, demande à Allah Azza wa Jal. Premier moment. Deuxième moment que tu consacres à Allah Azza wa Jal dans chaque jour du Ramadan, ba'da salat al-fajr. Après fajr jusqu'au shuruq, jusqu'à ishraq. Reste de le dhikrullah, reste de le Qur'an, reste de l'ibada. Ne fais pas partie de ces gens qui, quand l'imam dit salam alaykum wa rahmatullah, on a une belle voix, son wa rahmatullah, ça va bien. Et avant qu'il a terminé le ha, déjà donne-le. Ne détale pour aller dormir, rattrape le sommeil. Non! Reste, celui qui lit 10 fois la ilaha illallah wahda ou la sharika la 10e, 4e kalima, il lit 10 fois, énormément de récompenses. Lis les adhkar qui te protègent toute la journée. Lis le Coran, fais le dhikrullah, reste de l'ibada jusqu'au lever du soleil et tu fais le shuruq, deuxième moment que tu consacres à Allah. Avec niya, qu'Allah me donne la possibilité de le faire tout le temps. Troisième moment, tire un moment pour la rupture du jeûne, iftar. Idéalement 60 minutes, mais avec Antassa et Madé, c'est un peu juste à la réunion, mais le temps que tu peux, dua au moment de iftar, qu'Allah nous accepte, et dua de Kaboul, qu'Allah nous accepte durant ce jeûne, tawfiq illa billah. On était un peu long. On demande excuse, inshallah. Par ce mujahada, vous avez mal au dos, moi je me dis bien assis sur une chaise, alhamdulillah. Allah accepte ce mujahada et par ce sacrifice, qu'Allah n'a la possibilité de développer ses qualités au matawfiq illa billah. Subhanallah, bihamdihi, subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum.